Merci d'écouter RFI, 8h à Washington et à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel.
RFI midi.
Une demi-heure sur le continent américain avec à la une la guerre commerciale menée par Donald Trump. Pas complètement écarté pour le Canada et le Mexique, on en parlera dans quelques minutes. On parlera aussi de l'actualité haïtienne et de la situation sécuritaire toujours extrêmement compliquée, notamment à Kinskoff avec notre confrère directeur de l'agence Alter Press. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises comme chaque jour, Benoît Ferrand, on parlera de la Guadeloupe et de la campagne sucrière qui doit commencer dans quelques jours en principe.
Les acteurs de la filière se réunissent ce matin pour fixer la date de lancement du début de la récolte. Récolte d'environ 450 000 tonnes cette année.
À tout à l'heure. Et d'abord le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Avec d'abord cette nouvelle frappe meurtrière de la Russie en Ukraine.
Oui, au moins 5 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées. C'était ce matin dans une attaque de missiles en plein centre-ville d'Izioum, dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Les secours sont encore à pied d'œuvre à la recherche de survivants dans les décombres. En direct de Kiev, Emmanuel Chaz, quelles sont vos dernières informations sur cette frappe ?
Oui, alors ces informations, elles proviennent du gouverneur de la région Kharkiv, Oleg Sineburov. Plusieurs morts, des dizaines de blessés suite à cette frappe. Et parmi ces blessés, on compte des enfants. Plus d'une vingtaine de personnes ont dû être hospitalisées après cette frappe, donc de missiles balistiques russes. Une frappe qui a endommagé un centre administratif ainsi que plusieurs bâtiments résidentiels. Et selon Oleg Sineburov, il n'y avait pas de bâtiments militaires dans cette zone. Reste que cette ville, elle est située à environ 50 km à l'ouest de la ligne de front dans la région voisine de Donetsk. C'est un lieu de passage important pour les soldats ukrainiens, pour les humanitaires. C'est une ville qui fait lien entre la ville de Kharkiv et la région de Donetsk voisine. Izioum, dont la population avant-guerre s'élevait à 45 000 habitants, qui est aussi devenue une ville tristement célèbre après sa libération en septembre 2022, après l'occupation russe, pendant laquelle 447 civils et soldats ont été torturés, puis exécutés et jetés dans des fosses communes à l'entrée de la ville.
Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Il est le premier dirigeant étranger invité à la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Signe de la proximité politique toujours très grande entre les deux pays, Benjamin Netanyahou est reçu ce soir par le président américain. Avant cette rencontre, le bureau du premier ministre israélien a indiqué qu'Israël allait envoyer en fin de semaine une délégation au Qatar pour discuter de la poursuite du cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza. La corruption et le gâchis sont en train d'être éradiqués en temps réel, se félicite Elon Musk. Elon Musk qui poursuit sa mission à la tête de l'organisme censé traquer le gaspillage de l'argent public aux États-Unis. Les équipes du milliardaire, patron de SpaceX et de Tesla, viennent d'obtenir un accès inédit à l'un des postes clés de l'État fédéral. Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour Gilles.
C'est le système de paiement du Trésor américain.
Oui, système chargé de distribuer des milliers de milliards de dollars de l'État fédéral. On parle de là des salaires des fonctionnaires, du remboursement des impôts, de l'argent destiné au fonds de retraite ou encore du programme d'assurance santé Medicare. En d'autres mots, les équipes d'Elon Musk ont aujourd'hui un droit de regard sur chaque dollar dépensé par le gouvernement fédéral. Où vont les subventions publiques? Qui en bénéficie? Ils peuvent désormais limiter et même bloquer certaines de ces dépenses.
Et les démocrates dénoncent une prise de contrôle extrêmement dangereuse qui pose des problèmes de sécurité.
Parce que les équipes d'Elon Musk ont aussi accès aux données personnelles de plusieurs millions d'Américains, fiches de paie des fonctionnaires, numéros de sécurité sociale. Illégal, répondent plusieurs syndicats qui ont déposé plainte. Et puis, il faut le rappeler, Elon Musk, chargé de tailler dans les dépenses de l'État et dans le même temps à la tête de plusieurs entreprises, SpaceX ou Tesla. Que se passera-t-il, par exemple, si certaines subventions accordées à ses concurrents sont réévaluées ou même coupées? Les démocrates pointent plus que jamais le risque de conflit d'intérêts au plus haut sommet des États-Unis.
Nicolas Feldman, merci. On l'a compris, les fonctionnaires ne sont pas dans les petits papiers des nouveaux dirigeants américains. Également dans leur viseur, l'Agence américaine pour le développement, USAID va fermer, a annoncé hier Elon Musk. Quant au président, après avoir déjà gelé presque tous les crédits pendant 90 jours, il a accusé l'agence d'être dirigée par une bande de fous extrémistes. Hier, les employés de l'agence ont reçu l'ordre par courrier électronique de ne pas se rendre à leur bureau. Et dans le monde entier, de nombreux projets d'aide humanitaire et de développement dépendent de cet organisme qui gère un budget de plus de 42 milliards de dollars chaque année. Quelles seront les conséquences de sa fermeture pour l'environnement et le climat? La réponse d'Edgar, ancien fonctionnaire d'USAID, actuellement directeur aux États-Unis de l'Institut de Stockholm pour l'environnement.
Il y a des programmes directement dédiés au changement climatique, c'est-à-dire de l'argent qui finance des mesures d'atténuation et d'adaptation dans des pays en développement. Mais au-delà de ces projets spécifiques, presque tous les programmes de USAID, par exemple ceux dédiés à la santé mondiale, ont une composante climatique. Tout simplement parce que les effets du réchauffement planétaire influencent les résultats de ces projets. Quand on gèle leur financement, les impacts se font ressentir à deux niveaux. Il y a les impacts directs sur les personnes et les communautés bénéficiaires des projets climat de USAID, comme par exemple les petits agriculteurs d'Afrique subsaharienne. Mais si USAID tente d'améliorer la résilience de ces agriculteurs africains, c'est aussi parce que c'est un moyen de sécuriser le système alimentaire mondial. Arrêter ce programme aura donc de façon indirecte aussi un impact sur chacun d'entre nous. Pourtant, l'administration Trump a clairement indiqué avoir dans son viseur les programmes liés au changement climatique parce qu'elle estime que cet argent n'est pas bien dépensé. Il est donc clair que les programmes de lutte contre le changement climatique seront spécifiquement ciblés, quelle que soit l'issue de la situation actuelle que nous observons à l'USAID.
Un propos recueilli par Stéphanie Schuller. C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les surtaxes de 10% décidées par Donald Trump sur les importations de produits chinois. En réponse, Pékin n'a pas tardé à déclencher des mesures de rétorsion. Elles seront appliquées dès la semaine prochaine à partir du 10 février. Des droits de douane supplémentaires toucheront un éventail de produits en provenance des États-Unis. Pétrole brut, gaz naturel liquéfié, charbon américain, ainsi que les équipements agricoles et certains types de véhicules. Cette annonce vient confirmer les craintes d'une guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, comme lors du premier mandat de Donald Trump.
Un nouveau programme fait son apparition sur les télés britanniques.
Oui, une émission de télé-réalité intitulée « Retourne d'où tu viens ». Elle est adaptée d'une émission australienne. Six Britanniques, dont certains sont très opposés à l'immigration, sont envoyés en Syrie et en Somalie. Ils ont pour défi de revenir en Grande-Bretagne par les mêmes moyens que les demandeurs d'asile. Reportage de notre correspondante à Londres, Emeline Van.
Dès les premières minutes, les candidats mitraillent leurs opinions sur l'immigration.
Je voudrais que la Royal Navy pose des mines le long des côtes et fasse exploser les bateaux clandestins. C'est comme des rats, ils continuent de venir si on les laisse. On se fait envahir.
Les six Britanniques passent un mois en Syrie et en Somalie, accompagnés par d'anciens militaires et munis de vestes pare-balles. Le but du programme, expérimenter ou presque le quotidien des migrants qui viennent demander l'asile au Royaume-Uni. Ce chauffeur routier et cette coach découvrent Mogadiscio.
L'Angleterre va finir par ressembler à ça. Comment pourrait-il s'occuper de nos jardins quand on voit l'état des leurs? Et pourquoi vous ne nettoyez pas les rues? Il y a des déchets partout.
Pourquoi faites-vous des enfants si vous n'avez pas d'argent?
Elle a été mariée à 13 ans, de force.
Le premier épisode suffit à faire changer d'avis Dave, chef cuisinier envoyé à Raqqa, le partisan des bombes dans la Manche.
Pourquoi personne ne vient les aider? Il faut que tout le monde voit ça. En fait, non, parce que c'est vraiment traumatisant.
Émission sensationnaliste et voyeuriste ou nouvelle approche pour sensibiliser un public coupé des autres formats? Les ONG sont partagées. La série devrait s'achever avec une traversée de la Manche à bord d'une embarcation de fortune. Emeline Van Londres, RFI.
Avant de refermer ce journal, cette dernière nouvelle en provenance de Suède. 5 personnes touchées ce matin par des tirs dans une école de la ville d'Orebro. Elle est située à 200 km à l'ouest de Stockholm. C'est ce qu'annonce la police suédoise. Il est pratiquement 14h09 ici à Paris. Très bonne journée sur RFI. Tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. Et on va parler d'abord de la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre ses voisins, Canada et Mexique.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Les droits de douane réévalués considérablement augmentés, mais pour 48 heures seulement, car Donald Trump a tout mis sur pause pour 30 jours, uniquement pour ses voisins. La Chine, elle, reste concernée par ces mesures, 10% de taxes sur les produits qui entreront aux États-Unis. Et tout cela, ça inquiète les consommateurs américains, comme l'a constaté notre correspondant à Atlanta, Edouard Maille.
Joshua sort du supermarché avec son sac de courses. Pour le quadragénaire, ce sont les consommateurs qui vont payer le prix d'une hausse des droits de douane.
Je ne vois pas comment les droits de douane vont être une solution pour baisser le coût de la vie. Les frais vont éventuellement être à notre charge si on taxe les importations. Ça retombera sur les consommateurs, comme moi.
Les États-Unis dépendent fortement du Mexique et du Canada pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Le Mexique est le plus important fournisseur de légumes et de fruits, tandis que le Canada envoie le plus de viande et de céréales. Smiley tire son chariot rempli de produits. Le retraité anticipe déjà devoir faire des concessions avec une éventuelle hausse des prix.
Ça va nous coûter beaucoup de dollars qu'on aurait pu utiliser autrement. Je vais devoir acheter moins de choses et faire le tri pour garder les produits qui sont vraiment importants.
Une autre personne, la cinquantaine, regrette que ces mesures toucheront en particulier certaines parties de la population.
Les frais de douane augmentent le prix des produits du quotidien dont la classe moyenne a besoin pour survivre.
Selon une étude du think tank PIIE, les hausses des droits de douane sur les importations du Mexique, du Canada et de la Chine pourraient coûter en moyenne 1 200 $ par an aux ménages américains. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Au Canada aussi, les consommateurs sont inquiets, mais ils ont décidé de prendre les devants. On peut le lire dans la presse. Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Beaucoup disent aujourd'hui vouloir boycotter les produits américains, et en particulier dans la province francophone de Québec.
Exactement. Le journal Le Devoir a demandé à ses lecteurs et lectrices comment ils comptaient réagir à la menace des droits de douane. Certains ont répondu vouloir modifier leurs habitudes de consommation. Daniel, par exemple, dit reconsidérer ses achats. Je vais privilégier encore davantage l'économie locale et porter attention à la provenance de ce que je consomme afin d'éviter autant que possible les produits américains. Il ajoute aussi avoir déjà annulé son abonnement à Amazon Prime, tandis qu'un membre de sa famille a renoncé à acheter une Tesla pour se tourner vers une autre marque non américaine. Même démarche pour Diane, qui privilégie d'abord les produits québécois, puis canadiens et enfin ceux provenant du Mexique ou d'Amérique du Sud. Elle est même prête à payer plus cher pour soutenir l'économie locale. Christine, elle, a déjà désinstallé WhatsApp et Instagram, ne veut plus utiliser Google Maps et envisage de tester des outils numériques européens. Selon elle, l'Europe offre plus de garanties en matière de liberté individuelle et de normes sanitaires.
On n'est donc pas complètement serein au Canada concernant cette politique de Donald Trump. Le Premier ministre du Québec, d'ailleurs, l'a dit hier. François Legault répondait à des journalistes qui lui ont demandé comment il réagissait à cette pause annoncée par le président américain.
Bien sûr, j'étais content parce que cela nous donne 30 jours pour avoir de meilleurs programmes, pour nous assurer que nous parlons avec toutes les entreprises importantes, avec tous les secteurs, pour être mieux préparés. Mais pour moi, ce n'est pas une victoire complète. Je pense toujours que M. Trump veut attaquer le Canada. Il a dit des choses au cours de la semaine dernière. Il a dit que sans les États-Unis, le Canada ne serait pas un pays viable. C'est donc terrible d'entendre des choses comme ça. Nous devons donc nous préparer à toutes sortes de scénarios avec ce type-là.
Prudence donc au Canada et au Mexique, on mise sur la négociation. La présidente a accepté d'envoyer des renforts militaires à la frontière entre les deux pays, Marine Le Bègue.
10 000 soldats supplémentaires envoyés à la frontière nord du Mexique. Objectif, limiter le trafic de drogue. C'est la promesse faite par Claudia Sheinbaum à Donald Trump au terme des négociations lancées hier pour mettre en pause les droits de douane que le président américain veut imposer au Mexique. Un gage de bonne volonté de la part de la présidente mexicaine en réponse aux accusations de Donald Trump qui tient le Mexique pour responsable de l'épidémie de fentanyl, une drogue surpuissante qui décime les États-Unis et distribuée par les cartels mexicains. Mais Claudia Sheinbaum n'a pas manqué de rappeler que ces mêmes cartels reçoivent leurs armes et donc leur puissance de feu des États-Unis, d'où elles sont envoyées illégalement. Il y a donc encore beaucoup à discuter, mais ce sursis d'un mois dans l'imposition des droits de douane offre une bouffée d'oxygène aux deux pays. Tous deux sont premiers partenaires commerciaux. Taxer à hauteur de 25% tous les produits en provenance du Mexique serait catastrophique aussi bien pour l'économie mexicaine qu'américaine. Marine Le Beg, Mexico, RFI.
Discussion en cours donc avec le Mexique, même sous la menace. Et en fait, à Achim Lippold, les journaux du continent ont du mal à y voir clair dans la stratégie de Donald Trump, qui a donc imposé à grand bruit des droits de douane très élevés le 1er février pour les suspendre deux jours plus tard.
Exactement. Qu'est-ce que Donald Trump cherche à obtenir en fait du Canada et du Mexique, se demande ce matin le New York Times. Selon le journal, le président américain a toujours assumé son intention d'utiliser les tarifs douaniers pour un levier, comme un levier économique contre les pays qui refusent de céder à ses exigences. En revanche, il reste flou sur la nature exacte de ses exigences, une stratégie qui lui permet de revendiquer une victoire à tout moment. Donald Trump affirme vouloir arrêter les flux de migrants à la frontière et limiter les expéditions de fentanyl, mais explique The New York Times, il n'a fixé que des critères vagues pour mesurer la coopération de ces deux pays. Difficile donc d'évaluer l'impact réel des concessions obtenues côté canadien, donc la création d'une force spéciale conjointe contre le crime organisé et le blanchiment d'argent, et côté mexicain, on vient de l'entendre, le déploiement de 10 000 membres de la garde nationale pour renforcer le contrôle aux frontières.
RFI. The world's voices. La presse américaine réagit aussi. Achim revient longuement sur une autre décision du nouveau président, c'est le démantèlement de l'agence de développement USAID.
Oui, exactement. Alors, démantèlement déjà virtuel, car son site officiel reste toujours fermé. Officiellement, le secrétaire d'État Marco Rubio a pris la direction de cette agence, mais son avenir demeure effectivement incertain. Dans les colonnes du Washington Post, le sénateur démocrate Chris Coons plaide vivement pour son maintien. Notre aide internationale nous permet de nous faire des alliés, de renforcer notre leadership et de neutraliser les menaces à distance. Les programmes de l'agence jouent un rôle clé dans la lutte contre les pandémies et le terrorisme, explique-t-il. Et il conclut, USAID n'est pas une agence parfaite. Si l'administration Trump souhaite discuter de réforme, eh bien moi je suis prêt à en parler. Mais ce qu'elle fait actuellement, ce n'est pas une réforme, c'est une destruction. Et ce sont les Américains qui en paieront le prix.
Voilà, USAID sous la houlette de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain qui rentre tout juste du Salvador. Et la presse en parle encore, Arim.
Oui, exactement. C'est à la une, de la presse salvadorienne, donc de Prensa Gráfica. Le président salvadorien, Nayib Bukele, a annoncé hier qu'il accepterait l'expulsion vers son pays de migrants en situation irrégulière ayant commis des crimes graves aux États-Unis. Mais il a également proposé d'accueillir dans ses prisons des criminels américains actuellement incarcérés aux États-Unis. El Faro s'interroge, le Salvador a-t-il vraiment les capacités d'absorber un afflux massif de détenus ? Nayib Bukele assure que chaque prisonnier accueilli fera l'objet d'une compensation financière versée par Washington, ce qui permettrait de garantir, selon lui, la viabilité du système carcéral salvadorien. Sur ce point, CNN d'ailleurs rappelle que le département d'État américain met en garde les voyageurs contre les conditions de détention difficiles au Salvador, où les prisonniers n'auraient pas toujours accès à une procédure régulière.
Voilà, le Salvador qui a donc reçu la visite de Marco Rubio. On va continuer à parler du secrétaire d'État américain avec notre confrère haïtien Godson Pierre en ligne de Port-au-Prince et directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Le nouveau secrétaire d'État américain sera dans la région demain en République dominicaine, mais il n'a pas prévu d'escale en Haïti et on peut lire sur votre site que cela suscite des réactions mitigées.
Oui, c'est désormais la République dominicaine qu'il faut protéger contre Haïti. Tel est le commentaire formulé par un chroniqueur sur notre site, accompagné du rappel de la crainte exprimée par Marco Rubio de voir le chaos haïtien se propager de l'autre côté de la frontière. On estime que dans les échanges américano-dominicains à Santo Domingo, la crise haïtienne sera certainement discutée sans nous, avec tous les risques que cela implique, je cite.
Alors, pas de visite américaine en Haïti, alors que la situation est toujours très critique. D'ailleurs, la capitale a encore passé une journée au ralenti hier. C'est à la une de votre site ce matin.
Ceci, entre autres, à cause de la peur suscitée par la publication de messages circulant sur les réseaux sociaux et annonçant d'éventuelles attaques contre des quartiers de la capitale, ainsi qu'une déclaration du chef de la coalition criminelle Vive Ensemble. Par précaution, plusieurs établissements scolaires ont décidé de garder leurs portes fermées. Les activités de transport public ont été réduites sur plusieurs artères de la capitale, notamment au niveau de Delma, en périphérie nord-est, des barricades de pneus usagés enflammées ont été dressées sur la route de Delma, perturbant la circulation automobile.
Tension très grande donc, et c'est particulièrement le cas à Kinskov. On apprend que près de 1700 personnes ont été déplacées après les violences d'il y a 8 jours, et la commune est toujours menacée, Godson.
Et en effet, les gangs armés ont de nouveau attaqué hier lundi la commune de Kinskov à l'est de Port-au-Prince, plus précisément à Godet. Malgré la présence des forces de l'ordre, des maisons, des véhicules et des motocyclettes auraient été encore incendiées dans ces nouvelles attaques de gangs armés, selon ce que nous rapportent des riverains aux côtés des agents de police. Eh bien, les militaires des forces armées d'Haïti tentaient de repousser les bandits. Des témoins ou parents de victimes parlent désormais de plusieurs dizaines de morts, de prises d'otages également, ainsi, comme vous le dites, de personnes âgées et de centaines de personnes, même des milliers déplacées.
Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouve mardi prochain sur cette antenne. Et d'ici là, on peut vous lire sur votre site alterpress.org.
RFI, la radio del mundo.
Notre dossier du jour nous emmène au Pérou, l'un des pays les plus riches au monde en biodiversité. 1800 espèces d'oiseaux, 4000 de papillons ou encore plus d'une centaine de reptiles différents. Mais la préservation de ces animaux et des écosystèmes exceptionnels n'est pas vraiment une priorité pour les dirigeants, et l'économie souterraine menace cette richesse. Au point que des étudiants en droit ont décidé de se mobiliser juridiquement pour protéger l'environnement. Reportage Martin Chabal.
On l'appelle la clinique juridique environnementale de l'Université pontificale de Lima. Clinique parce que les étudiants diagnostiquent, dissèquent et tentent de guérir des cas juridiques où l'environnement est mis à mal. Victoria Salinas est étudiante et fait partie de cette clinique juridique. Pour elle, même s'il s'agit d'un cours universitaire avec une note à la fin, elle a le sentiment de participer à quelque chose de bien plus grand.
La clinique juridique guérit vraiment. Ici, le droit, la loi deviennent action, bien plus qu'une simple salle de classe. C'est vraiment un groupe dans lequel nous ressentons cette envie de lutter pour un avenir plus durable, plus viable.
Concrètement, dans la clinique juridique environnementale, chaque étudiant s'empare de cas réels et tente de dresser des rapports et faire valoir le droit environnemental. Andrea Dominguez est aujourd'hui celle qui guide ses élèves dans ce cours, mais en 2010, c'est elle qui était sur les bancs des étudiants. Elle a eu un cas particulier.
À l'époque, j'ai travaillé sur une usine de béton lorsqu'ils ont voulu construire le métro de Lima. Les travaux ont été octroyés à l'entreprise brésilienne Odebrecht, mise en cause en 2016 pour un énorme scandale de corruption sur le continent. Et dans notre salle de classe, on s'est posé la question des conséquences environnementales. On voyait que les chantiers continuaient à émettre de grandes fumées, même après 10 heures du soir.
Quand ces étudiants ont comparé la loi avec ce qu'ils avaient découvert sur le terrain, ils savaient qu'ils tenaient quelque chose. L'usine émettait de la poussière de ciment en permanence, une matière qui peut contenir de la chaux et de la silice, produits toxiques pour les voies respiratoires, le tout juste à côté du Centre national du sport péruvien qui forme les athlètes.
Avec nos résultats, on est allé frapper à la porte de la Société péruvienne des droits environnementaux. Et eux ont dit qu'ils allaient faire une vidéo avec nos recherches et la publier. Tout ce scandale écologique n'aurait pas été révélé si, en tant qu'étudiante, je ne m'étais pas penchée sur ce cas.
Aujourd'hui, les nouveaux étudiants prennent le relais à chaque rentrée scolaire, que ce soit pour étudier le chantier d'un aéroport près de Cusco, dans une petite communauté andine affectée par la pollution minière, ou même au milieu de la jungle amazonienne où l'orpaillage détruit la nature. Tous ont le sentiment de faire plus qu'un simple travail universitaire. Pour Florentrel Camargo, la clinique juridique environnementale permet d'exercer son rôle de citoyen.
La clinique nous donne la possibilité de voir différentes problématiques.
Je crois que la clinique permet aux jeunes qui entrent dans ce cours de parler directement aux gens, des gens qui vont être touchés par un quelconque projet, des défenseurs de l'environnement, des pêcheurs. Et tout ça, en tant que jeunes, ça nous sensibilise et ça nous aide à laisser une trace sur ce qu'on fait et ce qu'on va faire.
Qui, al final, terminent à tomadores de décision.
Maintenant, la clinique juridique environnementale du Pérou tente de créer des ponts avec d'autres universités du continent. Le Chili, l'Équateur, l'Uruguay, le Mexique et d'autres pays d'Amérique latine ont rejoint le mouvement. Tous ces étudiants espèrent pouvoir aider à faire respecter les lois environnementales sur un continent considéré comme le plus dangereux pour les défenseurs de la nature. Martin Chabal, Lima, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première et Benoît Ferrand aujourd'hui, pour parler d'abord de la Guadeloupe, Benoît. Après une année 2024 à oublier, la campagne sucrière devrait démarrer en principe dans quelques jours.
Les acteurs de la filière se réunissent aujourd'hui pour fixer la date de lancement du début de la récolte 2025. Récolte d'environ 450 000 tonnes cette année, ce sont en tout cas les prévisions. Josiane Champion.
455 500 tonnes, c'est la production de canne attendue cette année en Guadeloupe dite continentale. Selon les prévisions de récolte établies par les SICA, un volume légèrement inférieur aux 457 000 tonnes qui auraient dû être coupées en 2024. Au final, on le sait, près de 180 000 tonnes étaient restées debout, ce qui donne une surface inédite de canne dite renvoyée. Elles ont continué à pousser, d'autant que les conditions pluvieuses de l'intercampagne ont favorisé leur croissance. Leur rendement à l'hectare sera donc plus élevé, mais pas doublé, car les tiges souvent sont couchées, ont séché quand elles ne sont pas dévorées par les rats. Beaucoup de ces cannes aussi sont reparties en végétation. Bref, des conditions particulières qui rendent les prévisions difficiles. Certains pensent d'ailleurs que les tonnages ont été sous-estimés. On le saura lors de l'ajustement en milieu de campagne. Les 3500 hectares de cannes renvoyées seront bien sûr récoltés en priorité, ce qui devrait occuper les quatre premières quatorzaines. Lors du week-end de Pâques, l'usine sera nettoyée pour pouvoir recevoir à partir du 22 avril les cannes certifiées bio. Ensuite, il restera 2 mois maximum pour boucler la campagne, puisqu'au-delà du 28 juin, Gardel ne sera plus fourni ni en vapeur ni en électricité par la centrale thermique Albioma qui entrera en travaux.
Et la campagne à Marie-Galante, ce sera pour le mois de mars. On reste en Guadeloupe et dans le domaine agricole avec le plaidoyer passionné du président du conseil départemental en faveur de la production locale dans le cadre du combat contre la vie chère. Écoutez Guy Losbar au micro d'Olivier Lancien.
Ma démarche n'est pas que, comme j'ai entendu, que pommes ou raisins soit en Guadeloupe au même prix que Bordeaux ou à Marseille ou voire à Paris. Ma démarche, c'est non, au contraire, que les jeunes Guadeloupéens, ben, ils ont mangé goyave, ils ont mangé mango, enfin, que ce que nous puissions produire, que nous puissions intensifier nos productions. Si dans nos cantines, ce sont les produits qu'on trouve, si lorsqu'un bateau croisière, il arrive, eh bien, lorsqu'il arrive au port de Pointe-à-Pitre, eh bien, c'est l'occasion pour qu'il puisse embarquer des tonnes de tomates que nous avons pu produire. Il faut que notre production soit nettement supérieure et qui permettrait automatiquement de diminuer le coût.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va écouter un peu de musique avant de se quitter. Le morceau Chismitaine du musicien Touareg nigérien Mdou Mokhtar qui sera en concert ce soir à Montréal. We'll be right back. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui avec la musique de Mdou Mokhtar. L'émission de ce mardi était réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Invité aujourd'hui, Judith Chemla, qui met en scène le spectacle Le Procès de Jeanne. Très bonne journée à tous.